Voilà, écoutez, je voudrais commencer par remercier l'Université chrétienne d'été de Castanet de cette invitation qui me permet de. Alors moi, je réponds toujours présent aux invitations universitaires, donc c'est parfait. Et c'est une occasion vraiment précieuse de prendre un peu de recul sur un quotidien qui est. Qui déborde assez volontiers, qui est très morcelé, qui est fait de plein de petites choses, plein de sollicitations, plein de moments où on a l'impression d'agir sur des choses importantes, et puis à d'autres moments sur des détails, mais qui sont indispensables. Donc le service, c'est quand même vraiment une réalité quotidienne dans un rôle d'élu. Et en même temps, il faut de temps en temps prendre ces temps-là. Donc là, on clôt un mois de juin bien bien chargé et puis pour tout vous dire aussi une journée d'hier assez compliquée puisque on a dit adieu à un de nos conseillers municipaux amis qui voilà Patrick Mignon qui était assez enfin qui occupait forcément une place importante dans notre équipe comme tous ceux avec qui on travaille tous les jours et donc ça donne encore un peu plus de gravité à cette en tout cas pour moi aujourd'hui à ce témoignage. Alors, je vais essayer de vous raconter rapidement qui je suis, d'où je viens, parce que il me semble important. Il y a toujours une dimension personnelle dans ces parcours. Ensuite, je parlerai enfin, quelques réflexions autour de cette idée de commun, commun au singulier et au pluriel, et puis vous donner quelques éléments sur la façon dont nous saisissons de cette idée. Dans l'action concrète à l'échelle de la municipalité, à l'échelle de la mairie de Castanet depuis 2 ans. Alors, très rapidement dans mon histoire, moi j'ai un peu moins de 60 ans, je suis né à Grenoble et j'ai grandi dans cette ville. Ce que je retiens, c'est sans doute un sens quand même de la géographie, de la nature, une montagne extrêmement présente. Ce que je retiens aussi de mon enfance grenobloise et de mon adolescence, c'est que c'est une ville de résistance. J'ai toujours été impressionné de passer devant les monuments aux morts. J'ai aussi beaucoup beaucoup grandi dans le Vercors, au lieu de la résistance. Et ce sont des valeurs qui restent extrêmement fortes à mes yeux, de savoir comment, à certains moments de l'histoire, certaines personnes se sont conduites. Alors, je suis d'une famille, mes deux parents étaient arrivés à Grenoble, venant d'autres régions et de régions parisiennes en l'occurrence. Mon père est ingénieur, ma mère est prof, professeur de physique agrégé, et donc, bon, voilà, famille d'intellectuels plutôt scientifiques, très classique dans la société grenobloise, un beau contexte pour grandir, beaucoup de choses. Juste sur ma famille, je voulais juste me rappeler d'une chose que j'ai écrite il y a quelques années. J'avais deux grand-mères, comme tout le monde, normalement, et j'avais deux grand-mères écologistes. Pour des raisons totalement différentes. En fait, ma grand-mère maternelle avait connu la guerre avec des enfants en bas âge, etc. Et comme un certain nombre de gens de cette génération, elle ne jetait rien. Elle était extrêmement économe et extrêmement précautionneuse de toute chose matérielle. Et ça, c'est quand même une valeur voilà, qui nous reste. Donc je me souviens de ça. Et mon autre grand-mère, qui avait aussi vécu la guerre dans les mêmes conditions, etc., qui s'était engagée beaucoup notamment dans les services de santé et des choses comme ça. En fait, elle était un peu. Elle était devenue militante écologiste dans les années 70 à Paris. Et ces deux mémoires qui se rejoignaient m'avaient aussi beaucoup, 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 enfin, me servent un petit peu de décor et de référence. Alors, j'ai un parcours. Moi, je suis ingénieur de formation. Je suis polytechnicien. J'ai fait un doctorat en mécanique des fluides et j'ai démarré ma carrière professionnel dans l'entreprise avec une vision très scientifique et technique des choses. Et puis j'ai évolué en travaillant dans les domaines souvent encore techniques, mais en découvrant beaucoup la composante humaine dans les entreprises. Donc je me suis de plus en plus intéressé à travers la gestion d'équipe aux questions des relations entre les personnes. J'ai fait une formation de coach à un moment donné dans ma vie pour essayer justement d'avoir des outils et des méthodes par rapport à ça. Et puis j'ai découvert des tas de domaines différents, puisque j'ai travaillé dans la formation, j'ai travaillé dans l'aéronautique, j'ai travaillé dans le bâtiment et les matériaux pour le bâtiment, j'ai travaillé dans l'agriculture biologique, j'ai travaillé finalement dans une collectivité territoriale à Grenoble, dans l'urbanisme et les projets urbains. Donc bon, un parcours très, très varié de ce point de vue-là, très, très voyageur. Et en même temps, une prise de conscience, donc les deux vont un petit peu de pair, progressive des sujets de l'écologie, des sujets de la finitude de notre biosphère et de la nécessité de prendre en compte cette dimension et d'essayer de se. Voilà, moi je suis un peu un enfant du développement durable, hein, des notions découvertes en 1992 au moment du sommet de la Terre à Rio, en disant ben voilà, l'humanité va se saisir de cette injonction de bien adapter sa trajectoire. Et puis finalement, je suis un peu comme un certain nombre d'entre nous, un peu dans le constat que cette raison n'a pas pris complètement. Donc finalement, on n'a pas infléchi autant qu'il aurait fallu cette trajectoire. Et une des leçons que je retire, c'est que le monde n'est pas, nous ne sommes pas qu'un monde d'ingénieurs ou qu'un monde de rationalité. C'est pas parce qu'on va mettre des indicateurs et se rendre compte d'un certain nombre de choses qu'on va forcément prendre des bonnes décisions. J'ai envie de dire, il n'y a pas que les ingénieurs qui peuvent être déçus de certains manques de prise de conscience ou de certains manques d'orientation. Il y a aussi des personnes très spirituelles. Et c'est vrai que dans l'Église, il y a eu des mots importants sur la question de l'écologie. Bon, alors, j'aurais quand même cité effectivement l'encyclique du pape François sur Laudato si, mais qui n'est pas la première. Donc là aussi, la grande communauté chrétienne a connu des personnes qui ont alerté, qui ont dit qu'il fallait changer de trajectoire, que ce soit sur la question sociale, que ce soit sur la question environnementale, écologique, que ce soit sur la question du dialogue entre les peuples. Et tout ça reste quand même un combat qui reste à mener. Donc, bon, encore et encore, et peut-être plus encore chaque jour. Un petit mot également pour terminer là-dessus sur mes références ou mes lectures marquantes. Donc politiquement, j'étais très très inspiré par. Enfin, pour moi, les références importantes, c'est Pierre Mendès France et Michel Rocard. Forcément, pendant un certain temps, j'ai milité au Parti socialiste pendant 17 ans avant de passer, de franchir le pas pour passer au Parti écologiste, Europe Écologie Les Verts, sans avoir l'impression de changer de vêtements, hein, mais en me déplaçant un peu sur un échiquier où je pensais qu'il fallait porter certains combats encore un peu plus fortement. Mais j'ai toujours sur cet aspect-là l'idée que le plus compliqué, c'est toujours de rassembler, faire dialoguer. C'est très facile de se diviser dans tous les sujets, en politique particulièrement. C'est plus compliqué de se rassembler, mais c'est absolument indispensable, parce qu'à partir du moment où on parle de bien public, de bien commun, à partir du moment où on parle d'essayer de donner une trajectoire collective à notre monde, eh bien, ça impose de se mettre d'accord. Voilà. Donc, bon. J'en dirai pas tellement plus sur ce sujet, sauf un peu sur la dimension locale. Dans les influences, je voudrais citer également Edgar Morin, qui pour moi est une lecture toujours très très revigorante et qui m'a ouvert beaucoup de choses dans le lien aussi entre la science et la conscience et plus largement la pensée complexe de Morin est quelque chose qui me parle, ça tombe comme ça et donc qui me permet de trouver des outils qui se poursuivent dans beaucoup de domaines. Une lecture également que j'avais envie de citer, c'est Ray et Anderson, qui sont des sociologues américains qui ont écrit à la fin des années 90 un ouvrage qui s'appelle « L'émergence des créatifs culturels ». Et en gros, ils ont, après une étude extrêmement poussée, ils ont découvert qu'aux États-Unis, ils ont révélé le fait qu'aux États-Unis, il y avait en fait deux grands blocs qui s'affrontaient depuis très longtemps, les traditionalistes et les progressistes, mais qu'en fait, il y avait un troisième bloc qui était invisible et qu'ils ont choisi d'appeler les créatifs culturels, ces gens qui avaient des valeurs de localisme, de féminisme, d'écologie, d'action concrète, d'action locale, d'entraide et de fonctionnement, et qui représentaient, quand on fait des enquêtes, 25% en 1999 de la société américaine. C'est-à-dire un énorme bloc invisible, mais peut-être qui est l'émergence de ce que nous espérons voir arriver comme valeur importante. Et l'idée qui est derrière cette étude, c'est aussi de montrer que les blocs les plus visibles sont souvent les blocs qui s'affrontent et les blocs qui, au contraire, agissent et travaillent au quotidien, finalement, sont plus invisibles. Donc c'est, pour moi, un signe d'espoir. Voilà. Dans les signes d'espoir, je voudrais citer aussi Patrick Vivray, qui a écrit des choses tout à fait passionnantes sur et qui nous rappelle que la sidération qui nous saisit parfois, le contraire de la sidération, c'est désidérer. Désidérer, c'est l'origine du désir. Et donc, désirer, c'est se désidérer. Ça, c'est une des révélations de ce philosophe, conseiller d'État, etc., qui est passionnant et qui est toujours dans une pensée positive et conviviale. Et donc voilà. Et puis, il y en aurait encore d'autres, mais mes lectures plus récentes m'emmènent du côté d'une écologie plus sensible, de lien avec le vivant, un peu moins Isabelle Stengers, par exemple, de cette idée que nous ne sommes pas que dans un monde d'ingénieurs, je vais le dire comme ça, et que donc il faut s'ouvrir à des récits un petit peu, à des récits différents, un peu moins dans le rationalisme auquel on est parfois très 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 collé. Alors voilà, j'ai terminé sur ce sujet. Deux mots quand même de l'aventure de Castanet en commun, qui est pour venir vraiment à la politique concrète. On s'est engagé à partir de mi-2019 à l'idée de se présenter aux élections municipales dans une démarche la plus collective possible, la plus ouverte possible, la plus rassembleuse. Et je me souviens d'une fois où, moi j'étais impliqué dans les mouvements politiques locaux, etc. Donc quand arrivent petit à petit les élections, on se dit, enfin se profile à l'horizon les élections, on se dit, est-ce que tu vas t'engager, être dans quelque chose, etc. Et il y avait eu la projection d'un film qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend ?» de Marie-Monique Robin sur l'aventure municipale d'une petite commune à côté de Mulhouse qui s'appelle Ungersheim. Et donc, elle raconte, etc. Et ce film a été projeté ici au Ciné 113, dans une soirée organisée par le CODEF, le Conseil de développement du Sicoval. Et à la fin de ce film, pendant le pot et la discussion, Cécile Valverde, qui était la présidente du CODEV, me dit « Alors, est-ce que tu prévois quelque chose pour les élections ?» Et je lui dis « Écoute, si je m'engage pour les élections municipales, ce sera pour faire ce qu'on vient de voir au cinéma. » Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend pour vraiment s'y mettre tous ensemble à quelque chose qui soit vraiment une transition à laquelle on croit. Et donc, on est parti sur cette idée d'agir pour la transition sociale, solidaire, citoyenne, écologique, tout ça formant un tout bien organisé. Et ça a été une aventure assez superbe, d'autant que effectivement elle s'est soldée par une victoire électorale, mais surtout une aventure humaine et collective extrêmement intéressante, où pendant une année on n'a fait que ça, ou presque, hein, de se réunir une fois par semaine, de faire du porte-à-porte, mais d'abord de construire un projet municipal ensemble, avec un groupe très de plus en plus large de personnes qui sont venues contribuer, apporter des idées, etc. Et autour de ces grandes idées, donner la parole beaucoup plus largement à toutes les personnes qui ont envie de la prendre et de participer, donner la parole et donner la possibilité d'agir. Donc le pouvoir d'agir des citoyens, voilà, ça c'est le parmi les livres qui sont là, celui que j'ai et qui me parle le plus. C'est celui-ci, Le pouvoir d'agir des citoyens. Je connais bien Georges Ders, qui en est l'auteur et coordinateur. Et on était vraiment dans cette idée, favoriser cette possibilité-là. Et puis quand même donner une orientation, qui est cette idée de la transition, d'aller vers un monde plus humain, plus solidaire, plus respectueux aussi des limites, donc plus modéré dans son impact, et essayer de le faire avec le groupe le plus large possible. Voilà, donc on a appelé notre groupe Castanet en commun. Il y a eu pas mal de listes en commun quand même pendant cette... Mais enfin, c'était quand même important et on avait... Je me souviens d'une anecdote, effectivement, pendant la campagne, une dame m'avait dit mais pourquoi vous appelez ça Castanet en commun? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'avais dit, vous et moi, qu'est-ce qu'on a en commun? On se connaît pas. Je vous rencontre pour la première fois, on peut discuter, etc. Et finalement, ce qu'on a en commun à la fin de la discussion, c'est Castanet. C'est-à-dire qu'on habite au même endroit et on partage un espace public, toutes les composantes qui font une ville, c'est-à-dire de l'espace, des institutions, un milieu associatif, un groupe d'humains qui est plus ou moins égoïste ou plus ou moins solidaire, etc. C'est ça qu'on a en commun. Donc voilà, c'était un petit peu l'anecdote emblématique de ça. Alors je reviendrai sur notre action à Castanet dans ma troisième partie, mais je voulais faire maintenant essayer de creuser cette histoire de commun avec quelques idées forces. Alors je me suis amusé à faire ce petit schéma. Il est de moi, il est pas parfait, il manque un certain nombre de choses, mais je trouvais quand même que les communs, c'est dans le règne de l'avoir collectif. Alors, sur ce schéma, vous avez en horizontal les choses qui sont du domaine de l'être et les choses qui sont du domaine de l'avoir. Il y a d'autres dimensions, il y a notamment le faire qui va revenir. Mais enfin, être et avoir, ça reste quand même deux polarités. Et puis, en vertical, en bas, ce qui est individuel et en haut, ce qui est collectif. Alors, dans l'être individuel, moi, je mets notamment, dans une vision assez politique, je l'avoue, les droits humains, au sens large, les questions d'émancipation, qui sont absolument essentielles. Alors, bien sûr, dans une vision spirituelle, il y a d'autres choses, mais dans une dimension politique et civique, ce sont des choses importantes. On le sait, on le constate aujourd'hui, ces droits, ils vont pas de soi. Et les droits humains, c'est une bataille permanente dans plein d'endroits du monde, y compris dans notre pays. Donc la Ligue des droits de l'homme n'est pas au chômage. Et les avocats qui, dans notre pays, se battent tous les jours pour ces questions-là sont à... à citer plus et plus et encore. Et en cette période, cette semaine dramatique où un arrêt de la Cour suprême des États-Unis revient sur un droit qui est tellement, tellement fondamental, voilà, il faut se souvenir et chérir cette dimension. Alors, dans l'être collectif, au-dessus, je me suis dit qu'il y avait des tensions quand même très très fortes. Parce que parfois, l'être collectif, c'est l'assignation identitaire, c'est de dire, vous êtes, on vous réduit à ce que vous êtes, un homme, une femme, un blanc, un noir, un jeune, un vieux, etc., ou un français et un étranger. Alors, il y a des gens qui ont des jolis t-shirts parfois, il n'y a pas d'étranger sur cette terre. J'aime bien cette formule. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a en face de cette assignation identitaire, les mouvements identitaires qui sont quand même malheureusement très puissants. Il y a le métissage, notamment le métissage qui est en même temps une réalité objective et en même temps un état d'esprit d'ouverture et de non-réduction. J'y mets aussi les totalitarismes, voilà, tout le monde pareil, on vous réduit à, vous êtes russe, donc si vous êtes russe, vous pensez comme un russe, et vous êtes, et ça c'est du nationalisme, qui conduit très très vite à du totalitarisme. Et en face, on a effectivement les questions de diversité, de dialogue. Donc, ce côté du collectif et de l'être, enfin de l'être collectif, c'est un endroit de bataille. J'en parlerai pas plus, mais c'est un endroit de bataille, c'est un endroit de bataille philosophique, politique, permanente. Dans le domaine de l'avoir, de l'autre côté, vous avez l'avoir individuel, qui est très, 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 très présent dans notre société, hyper présent. C'est le domaine de la propriété privée. C'est le domaine de la société de consommation, on le connaît bien, et j'ai mis le pouvoir d'achat. Quand la question sociale se réduit dans beaucoup de discours à seulement la question du pouvoir d'achat, eh bien c'est à mon avis un appauvrissement du discours politique extrêmement fort. Donc il y a une réalité, mais le pouvoir d'achat ne résume pas la question de notre relation à l'avoir et au matériel. Il faut, je pense, en être conscient. Et alors, de l'autre côté, dans l'avoir collectif, il y a deux mots, le public, donc les biens publics, les biens publics, les services publics, etc., qui forcément ont un rôle extrêmement important. Nous, les personnes attachées à une pensée de gauche, on est très attachés au public. Et en même temps, le public, c'est... À un certain nombre de faiblesses. D'abord, souvent, une forme de dilution de responsabilité. C'est public, donc c'est à personne. Et nous, élus, on le ressent aussi, le public, c'est vous qui vous en occupez. Mais forcément, d'accord, ça fait partie de nos missions. Mais vous en occupez avec quelles ressources? Ben forcément, des ressources fiscales. Donc, je paye mes impôts, donc j'ai droit au service public. Et le raccourci, il est assez rapide à certains moments. Ben, monsieur, je paye mes impôts, donc j'ai droit à une place en crèche pour mes enfants. Ben, oui, mais les places en crèche, il n'y en a pas. Voilà, il y a toute une relation. Il y a parfois, vous allez avoir une place en crèche, mais peut-être vous aurez une place avec une assistante maternelle agréée parce que le service public de la petite enfance, il ne couvre pas 100%. Et bon, alors pourquoi, comment, voilà. Et c'est un exemple parmi d'autres. Ce qui est public, d'ailleurs, on pourrait aussi faire une petite référence linguistique. Hein, un lieu public, parfois, c'est l'endroit où qui est maltraité, quoi, hein, tout simplement. Le tout public pose un certain nombre de problèmes. Et puis, il vous a pas échappé dans le discours, dans les débats politiques, que quand on commence à parler de fiscalité, on parle de dette, et qu'on entend, on ne peut plus se payer tel ou tel service, on ne peut plus se payer tel ou tel dispositif. Donc oui, les trains du quotidien, c'était pratique, les petites lignes ferroviaires, c'était bien pratique, mais en tant que service public, on ne peut plus les payer, parce que on serait rentré dans un monde qui est plus pauvre, et que la première chose qu'on retire, c'est effectivement ce qui est à tout le monde. Donc il y a une tension sur cette question du public. Et on peut pas... Enfin, imaginez que tout ce qu'on met, que tout l'avoir collectif, que toute notre gestion collective de la se passerait que par les biens publics, c'est peut-être ignorer quelque chose. Ignorer quelque chose de la complexité, ignorer quelque chose de l'histoire. Donc c'est là un petit peu que les communs font leur apparition. Alors les communs, alors j'ai mis le S entre parenthèses, parce que effectivement on appelait ça les communs, hein, ou les commons en anglais, c'est-à-dire tout ce qui est mis en partage d'une façon régulée, à l'intérieur d'une communauté. Donc forcément, d'une communauté, c'est pas tout le monde. Et la question de qui a accès au commun est une question posée. Mais le commun peut devenir un principe. Et là, on enlève le S. Et effectivement, ce bouquin, j'ose pas dire que c'est un petit bouquin, parce qu'il est quand même assez épais. Je l'ai pas lu en entier. J'ai piqué des choses dedans, mais je trouve intéressant. Le commun, essai sur la révolution du 21e siècle. Donc ces gens, Pierre Dardot, Christian Laval, qui sont des économistes et non philosophes et sociologues, pardon, et de plutôt de tradition marxiste. Font tout un inventaire extrêmement intéressant si on a le temps de rentrer dedans sur un petit peu comment cette notion de commun peut revivifier le débat sur la révolution au sens que nous pouvons attendre, parce que finalement parfois quand on utilise le mot transition, ben, transition vers quoi? Et une transition bien radicale, c'est une révolution, c'est-à-dire un changement de côté, un tour sur soi-même pour réellement changer d'époque. Hein, souvenons-nous que dans notre histoire, y compris des choses dont nous sommes fiers collectivement, comme la République, eh bien la République est arrivée par une révolution. Voilà, le mot révolution n'est pas tabou, il est à utiliser avec raison, mais voilà. Donc alors un petit mot sur cette histoire de commun. C'est une notion ancienne, puisque les biens communs, c'était la réalité dans l'ancien temps, on va le dire comme ça. Mais pour revenir par exemple, alors commun et commune, hein, également forcément il y a un lien. Et si vous vous intéressez à l'histoire médiévale de Toulouse, avec les capitouls, on avait une gestion sous forme de commun, réellement, à l'échelle d'une cité. C'était pas tout à fait la démocratie moderne, mais enfin quand même il y avait beaucoup beaucoup de choses qui fonctionnaient. Était en jeu la fiscalité, l'impôt, était en jeu la défense, était en jeu la justice de paix. Ce régime était un régime finalement qu'on pourrait appeler de proximité, avec d'assez grandes avait beaucoup de qualités en matière de durabilité, justement, et en matière de gestion prudente, humaine, humaniste même, des biens de la cité. Pour rester sur l'histoire, les capitouls de Toulouse, ils ont été progressivement dessaisis de leur pouvoir par le pouvoir central. Et vous arrivez, enfin c'est extrêmement intéressant de regarder ça, vous arrivez à l'apogée du roi Soleil, hein, Louis XIV, où là vous avez les parlements locaux ont été dépossédés pratiquement de tout leur pouvoir un peu important au profit d'un pouvoir central. Dans d'autres, notamment en Angleterre, ce qui a été, ça a été beaucoup documenté. Il y avait les commons, donc qui étaient des endroits où on pouvait faire paître les animaux, aller chercher du bois, etc. On avait la même chose en France avec les communaux, et on en a encore des restes avec les sections communes, par exemple. Enfin, on a encore des bois communaux, par exemple, ou des prairies communales. Mais on a aussi, même dans certaines villes, des sections communes, c'est-à-dire des endroits qui sont des morceaux de la commune avec des accès spécifiques et qui sont extrêmement régulés par des lois anciennes et autres, et qui sont des îlots de résistance qui ont été attaqués par l'histoire. Alors j'ai retrouvé dans mes petites recherches vous avez une association qui s'appelle Force de défense des droits et biens des communautés villageoises et des membres de sections de communes. Ça, c'est un site qui est à jour. Et vous avez les dernières actualités sur l'affouage, notamment, c'est-à-dire la possibilité d'aller faire son bois dans des bois communaux, etc. Et il y a une jeune femme de Castanet qui s'appelle Julie de Conchat, qui est en train de faire une thèse à l'École des hautes études en sciences sociales et sur, justement, la gestion des communs, notamment dans les îles du nord de l'Écosse, et dans les sections de communes françaises. Donc voilà, le sujet est très intéressant parce qu'on se dit, tiens, le tout public ou le tout privé, cette espèce d'opposition un peu stérile qu'on nous impose et où aujourd'hui on nous dit, ben, le public, on n'a plus les moyens. Donc forcément, le privé gère beaucoup mieux les choses et donc, transférons tout cela au privé avec les bonnes règles, etc. Ben non, il y a un intermédiaire extrêmement riche, extrêmement intéressant qui peut être ranimé. Alors notamment dans le débat philosophico-historique et politico-historique, il y a cette question de, à un moment, en 1968, est paru un article qui s'appelle « La tragédie des communs » et qui expliquait, de Gareth Hardin, et qui expliquait que, en fait, on avait bien fait d'enclore et de transférer au privé. Le transfert au privé des communs, ça s'est appelé les « enclosures », le fait de mettre des clôtures autour des biens communs à un moment donné et d'en transférer la jouissance exclusive à un propriétaire. Et donc Gareth Hardin expliquait qu'on avait bien fait parce que de toute façon les communs ça marche pas. Est-ce que quand vous mettez plusieurs personnes qui doivent régler l'usage de choses, d'un pâturage ou d'un bois commun, ben en fait, chacun va essayer de s'approprier la plus grande partie et on va couper les arbres en dépit du bon sens, on va faire paître les bêtes beaucoup trop vite et à ce moment-là, ça va assécher et abîmer le lieu. Et en fait, c'est faux. C'est une posture relativement idéologique. Alors, j'ai trouvé un article du journal du CNRS qui s'appelle de Fabien Locher, qui s'appelle « La tragédie des communs était un mythe ». Bon, il a écrit ça en 2018, mais une personne l'avait révélé aussi un peu plus au grand jour entre-temps, c'est Elinor Ostrom, qui est une économiste américaine et qui a eu ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, c'est le prix de la Banque de Suède, en 2009, justement pour ses travaux dans ce domaine. Et Elinor Ostrom, elle a étudié tout un tas de communs dans le monde et démontré qu'en fait, on pouvait très bien les gérer, ça se passait bien, à un certain nombre de conditions. Alors elle a énuméré 8 conditions. C'est pas un travail théorique, c'est un travail basé sur l'observation de fonctionnement. Et vous avez en Suisse, dans le Jura, etc., un certain nombre d'endroits où on gère en commun des ressources rares, donc des pâturages, des bois. Vous avez l'irrigation, un certain nombre d'endroits. Moi, j'ai entendu parler d'une petite île des Canaries qui s'appelle La Gomera, de tout le système d'irrigation qui permet de petits canaux, etc., d'irriguer les champs. Tout ça a été géré comme un commun de chaque vallée avec un conseil pour s'en occuper, avec des contributions pour permettre de payer ce qu'il y avait à faire comme petits travaux d'amélioration pour tous, etc., etc. Voilà, je vais pas être plus long sur ce sujet, mais c'est vraiment quelque chose d'assez passionnant. Et effectivement, je crois que cette idée de commun et de bien commun est une vraie notion qu'il faut ranimer, qu'il faut faire connaître et sur laquelle essayer de se mobiliser pour l'avenir, enfin pour le présent et pour l'avenir. Alors, juste un petit mot sur les limites du concept de la planète Terre vu comme maison commune de l'humanité. Alors, la planète Terre, c'est quelque chose, on dit c'est bon pour la planète ou c'est mauvais pour la planète. Cette formule est quand même doit nous poser plein de questions. Enfin, je veux dire, alors certains disent, mais la planète, vous savez, elle n'en a rien à faire, ou bien qu'est-ce que c'est la planète, etc. Et en fait, la conscience planétaire des humains, on ne l'avait pas tellement. On voyait plutôt midi à sa porte, on voyait plutôt des choses à échelle humaine. Et puis il y a un moment, il y a une espèce de révolution dans les imaginaires, alors qu'on date de 72 avec la première photo de la bille bleue, la planète vue de l'espace, photo prise par une mission Apollo, qui montre cette planète bleue extraordinaire avec ses nuages, avec ses océans, et dire voilà, c'est ça votre maison. Alors dans beaucoup d'idées, on se dit. C'est très généreux de se dire, ah ben, chic, l'humanité a enfin une image de son habitat, de son unité, et donc va avoir la sagesse d'en prendre soin et de bien faire attention. Sauf qu'une humanité, l'humanité, c'est trop grand. Et c'est à 7 milliards d'individus, l'humanité ne pense pas, ne parle pas. Alors bon. On peut débattre de ça, hein, j'ai pas cité Teilhard de Chardin aussi les pensées inspirantes, mais oui, il y a quand même des liens. Il y a des liens qu'on peut activer à des échelles de plus en plus grandes pour avoir une humanité consciente. Sauf que ça se fait pas en claquant des doigts. Et donc ça se fait peut-être progressivement, mais si ça se fait, ça se fait d'abord en commençant par agglomérer des petites communautés qui ensuite se mettent d'accord et s'agglomèrent de manière plus large et plus large. Or, dans nos sociétés, on est plutôt, pour le moment, sur des phénomènes de très, très centrifuges, d'éclatement, d'individualisme à outrance, etc. J'en veux pour preuve, ce qu'on appelle un réseau social. Elinor Ostrom, elle cite le fait que le capital social, c'est quelque chose de très important pour la bonne gestion des communs. Le capital social, c'est la mise en réseau, notamment des énergies dans une société. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui un réseau social, quand c'est Facebook ou Twitter, etc., c'est le contraire d'un vrai réseau. C'est un réseau artificiel d'individualité et dont en plus tous les algorithmes font qu'on se rapproche seulement des personnes qui pensent comme vous. Alors c'est sans doute pas le meilleur des dialogues, c'est plutôt au contraire, ça crée des bulles identitaires, pour revenir à mon truc de tout à l'heure. Et voilà, donc ne passons ne, il va être difficile de passer du jour au lendemain, à l'humanité intégrée qui pense la planète comme une maison commune. Et du coup, je voudrais citer effectivement les pensées les apports de Bruno Latour. Moi, j'ai été très, très impressionné par la lecture de Où atterrir de Bruno Latour, qui nous dit, voilà, la planète. Ça n'existe pas, pratiquement. Ce qui existe, c'est la zone de vie qui est de quelques kilomètres d'épaisseur tout autour. Et en fait, cette zone, nous l'habitons. C'est ça, notre habitat. Et la meilleure manière d'en prendre soin et d'en prendre conscience, c'est de travailler à échelle humaine. C'est-à-dire de se poser la question de quoi nous dépendons et comment nous nous occupons de notre propre environnement proche. Donc voilà, je vais beaucoup trop vite dans mon résumé, mais pour moi, c'est une des lectures les plus riches de ces dernières années, Où atterrir de Bruno Latour. Il me reste une vingtaine de minutes, ou pas tout à fait. Non, une dizaine. On va dire. Vous me dites, on va dire une quinzaine de minutes. Alors, je vais maintenant. J'ai été un peu philosophique et un peu. Mais voilà, j'avais envie de tourner autour de cette idée de commun et de bien commun et de partager avec vous un certain nombre de de découverte personnelle autour de ça. Et donc maintenant, je vais venir à la question de notre action, de qu'est-ce que c'est qu'une action municipale éclairée par ces idées. Donc moi, je le raconte sous la forme de passer du public, l'espace public, l'équipement public, au commun. Alors pas intégralement, hein, il reste du public qui a absolument vocation à le rester. Et c'est très important. Et nous sommes, en tant qu'élus municipaux, garants de tout ce qui est public. Et on s'en désintéresse pas. Mais on essaye de faire naître aussi, entre ce public et le privé, une zone nouvelle, une zone de projet qu'on va appeler le commun. Quand même un petit point sur l'espace public. Je ne sais pas si vous avez sans doute remarqué que de plus en plus ces dernières années, on a construit des résidences d'habitation fermées. Une des raisons, il y a deux raisons. Une des raisons, peut-être, c'est que les gens aiment beaucoup s'abriter derrière des murailles, des portails, des systèmes de contrôle d'accès, etc. Mais il y a une autre raison qui est beaucoup moins noble ou beaucoup moins... noble, c'est pas vraiment le mot, qui est beaucoup moins lié à la demande des habitants, c'est que pour la commune, si les espaces autour des immeubles sont publics, alors il faut qu'ils soient entretenus par nos services, des espaces verts, de la voirie, etc. S'ils sont privés, c'est la copropriété qui s'occupe de les gérer. Donc, vous avez une démarche qu'un certain nombre d'entrepreneurs ont bien compris il y a une trentaine d'années. Ils sont allés voir les communes en disant « on va vous faire des résidences fermées, vous allez voir, ça vous coûtera beaucoup moins cher à entretenir ». Et ce sont, je crois, à l'échelle quasiment française, ce sont des Toulousains, c'est Monet de Croix qui a été un peu pionnier dans cette invention. Hein, génial. Voilà, ça c'est les enclosures modernes. C'est une façon de dire ben, on va vous mettre des clôtures, vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde, parce qu'au moins chacun sait où il est et chacun sait chez qui il est. Mais au bout d'un moment, c'est une bombe à retardement, parce que vous avez un espace public qui ressemble à une succession d'espaces privés dans lesquels on ne rentre pas. Quand vous voulez rendre visite à un ami, que vous n'avez pas son numéro de portable ou que vous voulez aller toquer à sa porte, c'est simplement impossible. Et donc, vous avez cette espèce de chose qui n'a pas été pensée au départ et qui a une empreinte de plus en plus lourde, de plus en plus forte sur la vie, sur les échanges entre personnes, etc. Vous avez plein de résidences. Vous dites, vous faites des fêtes des voisins, des repas partagés dans la cour. Ah non, non, le syndic ne veut pas. Voilà. Tout ça nous incite quand même à la réflexion. Donc à Castanet, on a un très bel exemple de résidence avec des espaces publics qui arrivent au pied de chaque entrée d'immeuble. C'est dans la résidence des Ormes. Et effectivement, on en entend parler. On nous dit, ah oui, là, il y a une qualité d'espace, c'est intéressant. Et puis, il y a de la convivialité, il y a des échanges entre personnes. Voilà. Pas de hasard. Pas de hasard complet dans ce genre de choses. Alors, pour revenir à ce que nous faisons aujourd'hui à Castanet depuis deux ans, dans ce processus de passer du public à l'émergence de commun, se posent des questions, qui décide de ce qu'on fait, et la question de la décision partagée, nous, on l'a posée sous la question de la participation citoyenne. Et donc, effectivement, tout ça rentre dans ce qu'on appelle la démocratie participative. On a mis en place un certain nombre d'outils. Ces outils sont pas parfaits, ces outils sont pas définitifs, mais ils dénotent une première, un état d'esprit, une volonté d'ouverture et de dialogue. Et moi, je pense que, on l'a d'ailleurs dit hein, en réunion publique, passer d'une société où on vous dit simplement, on vous demande votre avis une fois tous les 6 ans au moment des élections, à une société où on participe à la décision, à la discussion, au débat en permanence, ça prend du temps. À Castanet, ça prendra 2 mandats peut-être pour réellement changer les habitudes, etc. Moi, j'ai amené un petit bouquin de Joe Spiegel qui s'appelle « Nous avons décidé de décider ensemble ». Joe Spiegel, c'est le maire, il a été maire de Kingersheim, également en Alsace, pendant 31 ans. et c'est un des pionniers de la démocratie participative locale, avec donc bon, expérience, essais, erreurs, ça marche pas, limite des dispositifs, toujours les mêmes, oui mais bon. Et il faut se confronter à cette chose-là. Donc, nous, on en est à ce stade, on en est à poser une proposition, à la faire vivre avec sincérité, mais on est encore loin d'être au bout du chemin. Et donc, les élus qui portent, il y a trois élus dans notre équipe qui portent cette question de la démocratie participative, et ils ne chôment pas de tout le temps remettre le sujet à l'ordre du jour, inventer des nouvelles instances. Donc là, on avait d'abord les commissions extramunicipales, etc., l'Observatoire des comptes publics, donc des choses, des instances adaptées à la proposition de codécision ou de dialogue, en tout cas, que nous faisons à la population. Et ensuite, donc là, plus récemment, on a créé les agora de quartier, qui sont l'idée de permettre que ce débat se passe à une échelle plus locale. On ne vous dise plus dans une discussion « Ah ben oui, mais les histoires de trottoirs devant chez vous, ça n'intéresse pas tout le monde ». C'est vrai. Mais ça vous intéresse, vous, quand même. Donc, à un moment donné, il faut aussi ne pas se couper de cette question-là. Alors, on parle de démocratie participative. Et récemment, samedi dernier, quelqu'un me dit, moi, je suis aussi attaché à la démocratie coopérative. Alors, je suis allé chercher ce que c'est que la démocratie coopérative. Et voilà, j'ai trouvé un article de la... Ah non, pardon. La démocratie coopérative, et quelqu'un d'autre a ajouté la démocratie contributive. Alors, la démocratie coopérative, en gros, c'est à peu près comme la participative. Mais la démocratie contributive, c'était encore un petit peu plus nouveau. Comment ? Voilà. Et du coup, j'ai trouvé un petit article sur un blog de la Caisse des dépôts. Vous voyez, il y a le tout. Qui dit, l'émergence de la démocratie contributive se joue dans les tiers-lieux. Les tiers-lieux, on en a quelques-uns à Castanet. On a le Grenier, qui a ouvert l'année dernière, qui est juste à côté. On a le Centième Singe, maintenant, sur les anciens locaux de l'ITEP, là-haut sur les coteaux. Et donc, les tiers-lieux, c'est effectivement un endroit de faire ensemble. C'est un endroit où on vient pour contribuer. Et la première chose c'est un lieu où on ne consomme pas vraiment, où on va plutôt... On va produire et consommer ce qu'on a produit ensemble. Voilà. Et donc, ça, c'est effectivement une idée intéressante. En tout cas, parfois, on réduit les tiers-lieux ou certains tiers-lieux à cette idée seulement de coworking. C'est vraiment une vision trop étroite, une vision utilitariste un peu simpliste. Les vrais tiers-lieux, et il y en a plein en France... Alors, je vais en profiter d'ailleurs pour faire aussi un petit hommage. Moi, j'aime beaucoup parler de la France de carnet de campagne. Si vous connaissez cette émission de France Inter, tous les jours, ça va s'arrêter ? Ah, bon, ben alors, il y aura sûrement autre chose. En tout cas, depuis des années...
C'est l'animateur qui change, c'est tout.
Ah, voilà, merci, bonne nouvelle. Ça fait longtemps que Philippe Bertrand anime Carnet de campagne. Mais Carnet de campagne, c'est pour moi, c'est une émission feel good. C'est vraiment, quand on écoute ça, on sort avec le moral. On se dit quand même, dans notre pays, il y a plein d'initiatives sympathiques, il y a plein de choses. C'est pas seulement dans les métropoles, c'est pas seulement dans les endroits branchés, c'est pas seulement dans les endroits à la mode de tel ou tel point de vue, du point de vue touristique et autres. C'est partout, à partir de cette énergie du terrain, de gens qui se remontent les manches pour faire, et faire ensemble. Voilà. Donc les tiers-lieux, et sans doute cette démocratie contributive, elle va dans cet esprit. Alors ce que je voulais dire aussi sur la deuxième question, effectivement, j'ai commencé à y rentrer avec cette démocratie contributive, c'est le qui fait. Dans les services publics, je ne l'ai pas dit, mais bien souvent, vous avez ceux qui font, qui sont forcément des employés publics, et puis vous avez ceux qui consomment. Dans les communs, on est beaucoup moins dans le qui produit et qui consomme que qui fait ensemble. Et moi, il y a une initiative que j'aime beaucoup et qui nous éclaire, c'est à Losangoël, dans le Pas-de-Calais. Alors, c'est encore un autre petit bouquin, voilà, Résilience écologique, Losangoël, ville durable. Jean-François Caron, qui est le maire de Losangoël depuis pendant aussi une vingtaine d'années. Losangoël, c'est à 20 minutes de Hénin-Beaumont. Et c'est la même sociologie, c'est la même histoire, quelque part. C'est le bassin minier et Losangoël, c'est les deux plus grands terris d'Europe qui étaient là. Et c'est cette dépression terrible de la société du bassin minier après la fermeture des puits, et où ils se retrouvent avec un paysage jugé comme dévasté et une situation sociale absolument inimaginable même de chez nous. Et donc il y a plusieurs modes de réponse, et le mode de réponse de Jean-François Caron, ça a été de se remonter les manches, de faire vivre aussi des sentiments de fierté qui pouvaient exister, et se dire finalement ce que vous voyez, les terrils, c'est aussi l'œuvre de l'homme dans quelque chose qui a été à un moment donné un mouvement qui était jugé positif pour le progrès, etc. Eh bien, ne soyons pas honteux, mais au contraire, nous sommes les premiers à être dans cette prise de conscience d'une transition, puisque la fin du charbon, c'était le début de peut-être d'une nouvelle ère, etc. Alors, je ne vais pas raconter toute l'histoire de Losangoël, c'est passionnant. Mais à Losangoël, ils ont inventé un petit principe que moi j'adore, qui s'appelle 50-50. C'est pas eux qui ont inventé cette formule, mais de dire, comme principe de fonctionnement, vous êtes quelques habitants où vous avez envie de monter un projet qui a un intérêt commun, qui a un intérêt général, eh bien vous en faites la proposition, et si vous acceptez de vous occuper d'une partie, la mairie vous apportera l'autre moitié. Donc vous faites une partie des travaux et la mairie fait l'autre partie, et chacun dans la bonne intelligence entre les deux. Voilà, ça c'est donc cette idée du faire ensemble et de se partager l'effort. C'est à travers ce 50-50, c'était quelque chose moi que je trouve assez inspirant, et on s'en sert tous les jours nous comme référence. Donc je vais venir maintenant à une série de petits exemples de ce qu'on a pu mettre en place. L'exemple du 50-50, c'est les jardins partagés. Jardin partagé, c'est un peu différent des jardins familiaux. Un jardin familial, chacun sa parcelle. Jardin partagé, un seul jardin qui va être cultivé en commun, selon des règles qu'on va se donner, qu'on va se définir entre les personnes qui sont là, les contributeurs. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui ont plus de force physique, il y a ceux qui sont plus dans... Voilà. Et puis vous avez même, alors je ne sais pas à Castanet encore, mais dans certains jardins que je connais, vous avez la personne qui ne touche jamais la terre parce qu'il a du mal au dos, et puis de toute façon, mais il vient, il fait le café et il fait la conversation parce que c'est quelqu'un qui aime bien le contact humain et qui habite dans le quartier. Et bien cette personne, personne dans les jardins partagés lui dit, dis donc, tu n'as pas droit à ta part parce que tu ne touches pas la terre. Mais non, il fait partie de cet ensemble, de ce groupe. Voilà, donc ça c'est... Alors, j'ai parlé un peu des participations citoyennes en action. Je pouvais vous parler aussi par exemple du projet patrimoine. On a, dans les commissions extra-municipales, on a une commission extra-municipale qui traite du patrimoine. Et du coup... le patrimoine, on s'est dit, c'est vraiment un bien commun, là, pour le coup, extraordinaire, parce que c'est... Alors, en plus, on avait un bel exemple à Castanet avec le musée et l'association à Barré-Jadis. Finalement, ce fonds de musée, il s'est fait par les contributions multiples de gens qui ont choisi de s'investir. Et donc, l'association s'est arrêtée l'année dernière parce qu'effectivement... avec son format, elle avait du mal à continuer à trouver des bénévoles, etc. Les personnes s'épuisaient, c'était logique. Et donc nous, on reprend cette initiative à un échelon municipal, mais on le prend sur un mode, justement, un mode de commun, un mode de 50-50, en se disant, on va pas tout faire, on va apporter ce qui est dans notre capacité, et puis en même temps s'appuyer sur un réseau à travers cette commission extra-municipale sur le patrimoine. Les jardins partagés, j'en ai parlé. Ah oui, un petit mot sur l'habitat participatif aussi. Donc, c'est quelque chose que nous commençons à mettre en œuvre ici à Castanet. La première opération, ça fait 2 ans qu'on est élu, on n'a autorisé aucun nouveau programme d'habitat collectif parce qu'on voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses qui se construisent et qui sont un petit peu excessives. Le premier projet que nous allons effectivement accepter comme nouveau projet, c'est un projet qui comporte 58 logements, dont 25 en habitat participatif. L'habitat participatif, c'est de dire que dans l'habitat collectif, dès le début, on décide qu'il y a une partie où les gens vont se mettre d'accord sur la gestion d'un certain nombre de choses communes. Une salle commune, une buanderie, un jardin potager ou des choses comme ça. Et dès le début, avant même de commencer d'emménager, alors qu'ils sont encore dans le moment de se projeter dans leur futur logement, ces personnes commencent à se réunir, alors avec l'assistance d'une association qui va nous aider à faire grandir cette future communauté, et de manière à se poser toutes les questions et décider ensemble de comment ils vont adapter certaines choses dans leur habitat et comment ils vont mettre en partage un certain nombre de choses communes. Voilà, j'ai parlé du grenier. La rafistolerie, autre initiative, autre association importante, hein, donc qui est une ressourcerie qui est maintenant là dans les locaux de l'ancienne poste. Et là aussi, on voit que on est sur un principe extrêmement intéressant que tout le monde reconnaît. Réemployer des vieux objets qui sinon seraient partis à la déchetterie, c'est évidemment extrêmement utile, intéressant, etc. Sauf que ça ne se fait que si vous avez une collaboration extrêmement riche entre, d'un côté, les collectivités qui vont financer, subventionner, permettre, mais aussi un groupe de bénévoles qui rentre là-dedans. Et on est vraiment dans une logique, là aussi, de gérer ce bien commun. Je vais terminer en vous parlant du projet Alimentation durable, donc le projet Alimentation durable de Castanet. Il a trois piliers. L'idée de la restauration scolaire. Donc, ça, c'est la partie qui est quand même dans nos compétences de commune, de nourrir les enfants tous les jours dans les cantines scolaires. Aujourd'hui, tout ça est préparé à distance, arrive en camion frigo et est réchauffé, servi aux enfants dans des simples unités de préparation. Comment on appelle ça? Enfin, il n'y a pas de préparation culinaire, c'est simplement la répartition dans des bacs, quoi. Donc demain, on travaille à l'idée de relocaliser la préparation des repas avec différentes formules qui sont à discuter. Ça existe dans d'autres communes, hein, de l'agglomération à Auzeville notamment. mais effectivement, ça nous paraît un sujet important qui a des liens aussi avec l'éducation au goût, avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, faire en sorte que les enfants, pour prendre la formule, ne croient pas que les poissons sont carrés avec des yeux dans les coins, mais surtout se reconnectent à la question de leur alimentation. Donc ça ouvre aussi sur le deuxième volet, qui est d'avoir une partie de ce qu'on appelle la ville nourricière, de faire en sorte qu'une partie des terres de notre commune servent aussi à faire pousser des fruits et légumes qui nourrissent la population dans certaines conditions, etc. Donc on a des études en ce moment du potentiel agricole de certaines de nos terres. Il se trouve que les terres de communes périurbaines comme nous, elles sont plus en culture depuis bien longtemps, parce que souvent les propriétaires, ils avaient anticipé le fait qu'un jour ou l'autre, ça serait devenu constructible. Donc de toute façon, c'est plutôt un capital à venir, mais pas du tout une réalité agricole quotidienne. Et là, on est en train de revenir en arrière par rapport à cette espèce de sens du progrès qui avait été écrit un peu vite, de manière à permettre et à remettre en culture un certain nombre de terres de la commune. Et le dernier volet, le troisième volet essentiel de ce plan, ce projet alimentation durable, c'est la solidarité. Alors, ce qu'on appelle aussi la démocratie alimentaire, parce qu'effectivement, en fait, dans notre pays, les gens qui peuvent réellement manger ce qu'ils veulent et ce qu'ils décident de manger, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir sur leur alimentation, sont les gens qui ont un petit peu de moyens. Parce que dès que vous êtes en dessous d'un certain seuil, vous ne mangez que ce qu'on vous laisse. Et même ce qui est organisé d'une manière parfois assez cynique, comme être un débouché. La pauvreté sert de débouché à la catégorie la plus basse des produits agroalimentaires que nous produisons. Et ça, c'est effectivement une grande injustice. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons aussi à travers un engagement pour une future sécurité sociale de l'alimentation, mais peut-être des projets d'épicerie solidaire, puisque c'est par là que ça commence à un échelon local. Et ça commence dès aujourd'hui. Alors, je suis assis juste en face de Bartimé, donc on travaille sur notamment des ateliers culinaires avec l'association Bartimé et Cocagne Alimentaire, hein, qui est une émanation du réseau des jardins de Cocagne qui est justement sur la question des paniers solidaires. Les jardins de Cocagne, c'est des jardins de production maraîchère à partir d'associations d'insertion. Donc, ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, et qui donc s'exerce dans ces jardins de Cocagne. Et évidemment, les jardins de Cocagne produisent des paniers de légumes pour des gens comme vous et moi qui, effectivement, ont les moyens de se payer des légumes bio produits localement. Mais comme leurs salariés en insertion ont des moyens plus faibles, assez vite, les jardins se sont eux-mêmes structurés pour produire des paniers solidaires, c'est-à-dire une partie qu'une partie de ce que les personnes qui ont les moyens payent servent à distribuer des paniers plus largement en premier lieu aux salariés en insertion des jardins de Cocagne, et puis finalement de fil en aiguille d'élargir le cercle. Voilà. Donc nous sommes embarqués dans cette aventure d'un projet qui s'appelle Territoire à vivre avec des associations. Il y a le Secours catholique, il y a les jardins de Cocagne, il y a le alors je vais en oublier, il y a l'association VRAC, il y a le GESMIP, l'UGES, l'Union des groupements d'épiceries sociales et solidaires. Et puis il m'en manque un cinquième, mais bon, c'est pas grave. On cherchera sur. Ah oui, c'est le CIVAM, c'est le réseau des CIVAM Buariège Garonne, ça doit être ça, je crois. Enfin voilà, donc qui est du côté vraiment des producteurs alimentaires. Donc l'idée, ce projet alimentation durable et ce projet territoire à vivre, il nous tient particulièrement à cœur. C'était aussi un domaine dans lequel finalement, alors là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de public, il n'y a pas de service public de l'alimentation. Donc c'est un endroit où finalement, il y a un trou dans la raquette de l'action publique. Et donc, s'il n'y a que du privé et du caritatif, et bien là, il nous manque quelque chose. Et donc, on est en train rejoint ce groupe des personnes qui inventent ce commun de l'alimentation solidaire. Et là aussi, c'est un projet parmi d'autres. Voilà, j'espère avoir ouvert ouvert plein de sujets pour effectivement ouvrir le débat, et je suis à votre disposition pour creuser ou répondre à toutes les questions que vous aurez.
Merci.